Bonjour à toi, cher auditeur, auditrice, je suis Héloïse et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu, un podcast dédié aux enjeux de la mer et du littoral, mais aussi aux personnes passionnées et passionnantes, engagées et engageantes du monde de la mer. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir au micro de Parlons Peu, Parlons Bleu, Rémi Comte. Rémi est ingénieur en environnement marin et littoral et plongeur professionnel. Nous nous sommes rencontrés dans le cadre de notre master sciences de l'eau de l'Université de Montpellier. C'est donc un ami, mais aussi un grand passionné du monde marin. Alors avec Rémi, on va parler de coralligène, de la mortalité des gorgones en Méditerranée, de sensibilisation à travers la photographie sous-marine, mais aussi de son expérience et de ses recherches sur la répartition des espèces en Méditerranée, à la réserve naturelle de Banyuls, et en tant qu'éco-garde au parc national des Calanques. Ok, tu es prêt?
Allez.
Salut Rémi!
Salut.
Bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu.
Merci.
Alors, je t'ai brièvement présenté à nos auditeurs. Est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites?
J'ai fait le master eau et littoral dans lequel on s'est retrouvé. Et ce qui me permet d'être aujourd'hui diplômé donc de ce master, je suis donc chargé d'études en environnement marin et littoral. Et grâce au diplôme de scaphandrier, je suis aussi plongeur professionnel. Et donc à côté de ça, je fais de la photo vidéo aussi en tant qu'indépendant. Et donc voilà, prochainement à la réserve marine pour un contrat en tant que chargé d'études.
D'accord. Et photo vidéo du coup sous-marine?
Ouais, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire en fait. De la photo vidéo sous-marine et puis c'est le moment je pense de pouvoir se lancer un peu plus de manière concrète et donc je me suis mis en indépendant en faisant une micro-entreprise et pouvoir un petit peu après dans l'idée diversifier les services donc que ce soit faire de la photo pour de surf de plongée pouvoir proposer aussi en tant que plongeur professionnel des inventaires même faire de la rédaction. Mais ce qui est fait souvent, c'est avoir un petit peu plus d'expérience et de bagages encore, et après faire ça en tant qu'indépendant, mais pourquoi pas après le reprendre. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire les deux en parallèle, salarié et puis une entreprise.
Trop bien. Et du coup, là, tu as été employé du coup à la réserve naturelle de Banyuls, c'est ça?
Ouais, c'est mon stage de master 2 du coup que j'ai pu faire là-bas. J'ai eu la chance de faire mon stage là-bas. Entre autres, grâce au classe 1B et à mes compétences naturalistes. Donc j'étais en fait, c'est à cheval entre la réserve marine et le laboratoire Arago. C'est l'ancien nom pour aujourd'hui l'observatoire océanologique de Banyuls. Et donc on bossait sur l'inventaire des fonds de coralligène, des peuplements de fonds de coralligène. Et on a comparé ensuite à 56 ans d'intervalle l'inventaire de 1956. Non, 1900 du coup, plus sous les yeux, à 56 ans d'intervalle du coup, et pour voir s'il y a une évolution en fait. Alors du coup c'est vraiment le début de l'étude, mais on a pu déjà avoir quelques petits résultats. Alors c'est vraiment un inventaire de manière générale du coralligène, ce qu'ils appellent sur la
Ok.
côte des Alberts, donc
Ah, c'est pas rien.
c'est vraiment la côte catalane, une partie de la côte catalane, proche de la réserve marine. En fait, le coralligène, c'est vrai que ça n'a pas été énormément étudié ces dernières décennies, même si récemment, c'est de plus en plus étudié parce que c'est un habitat qui est très complexe. Donc, pour aller chercher des échantillons, pour faire des suivis, pour faire des inventaires, c'est très, très long. Et donc, il y a Lucien Laubier qui a fait cette thèse en 1966 et qui a donc fait le premier inventaire et le seul inventaire sur la côte des Alberts. Donc à proximité de la réserve marine et qui a permis donc vraiment faire un listing des espèces qu'on peut retrouver et depuis il n'y a jamais rien qui a été fait et en fait à la réserve marine en tant que gestionnaire ils avaient besoin d'éléments de réponse pour savoir l'état de santé même s'il y a des suivis en plus qui sont faits ça permet aussi d'avoir vraiment une vision sur le long terme et c'est ce qui est très intéressant d'ailleurs à Banyuls c'est que en fait il y a le laboratoire et il y a la réserve qui existe depuis maintenant plus de 40 ans pour la réserve marine et pour le laboratoire c'est encore plus vieux et donc en fait ils ont des données qui sont très anciennes et qui permet d'avoir un recul important sur ces données naturalistes et de pouvoir ensuite les comparer.
D'accord. Et est-ce que tu peux nous définir ce que c'est du coup le coralligène pour nos auditeurs qui ne connaissent pas vraiment ce que c'est?
Ouais, du coup, le coralligène, c'est un habitat de Méditerranée qui est composé en fait de bioconstructeurs, notamment ces algues calcaires qu'on appelle corallinacées, qui vont se mettre sur le substrat dur et qui vont s'accumuler et qui vont ensuite créer ce substrat biogénique ensuite, donc en fait fait de matière biologique. Et ensuite, après, c'est énormément d'espèces donc benthiques, cryptobenthiques, donc qui sont sur le fond, qui viennent s'accumuler. Et en fait, c'est une diversité incroyable entre des crustacés, beaucoup d'invertébrés en fait de manière générale. Et puis après, c'est des poissons. Et voilà. Donc après les herbiers de Posidonie, en fait, c'est le second pôle de biodiversité. Et il y a encore beaucoup à faire sur ça.
D'accord. Et du coup, ces inventaires, qu'est-ce que ça a donné?
Alors du coup, on s'est focalisé sur trois groupes taxonomiques, crustacés, bivalves et annélides poliquettes. Et donc, on a fait des prélèvements en plongée sous-marine, on a fait un tri et ensuite de l'identification. Et pour l'instant, ce qu'on a vu, en fait, c'était sur deux sites différents, sur des profondeurs différentes. Ce qu'on a vu, c'est que la richesse spécifique n'était pas forcément plus importante au cœur de la réserve, enfin dans la réserve, que au site à côté de la réserve. Donc, ça montre que la potentielle extension de la réserve marine prochainement, ça serait légitime en fait de continuer à protéger à proximité ce qu'on appelle le Capoulet Stray, qui est vraiment en dehors de la réserve marine. Et on a aussi des espèces qui sont vraiment uniques à l'inventaire de 2022, qu'on retrouvait pas dans l'inventaire de l'Aubier. Alors après, il y a toute la complexité en fait de ce genre de travaux. En fait, les espèces, elles ont évolué. Il y a eu les gens ont donné des noms en fait, et depuis on s'est rendu compte avec les nouvelles techniques moléculaires que ça pouvait être soit une espèce qui était en réalité deux espèces, parce qu'en fait on n'arrive pas à le différencier morphologiquement, c'est juste avec les données moléculaires, ce qu'on appelle les espèces cryptiques, ou alors à l'inverse on avait dit que deux espèces étaient différentes et on se rend compte en fait qu'elles ont le même ADN en gros. Et donc en fait tout ça va amener des biais en fait sur la manière dont on réalise l'inventaire. Et la comparaison aussi. Donc ça, c'est encore un autre travail qui va un peu plus loin et qui demande après des analyses génétiques pour pouvoir pousser encore plus loin l'inventaire, quoi.
Mais du coup, ouais, pour revenir sur le coralligène, voilà, c'est une espèce assez importante en Méditerranée, même. Enfin, du coup, elle se trouve aussi partout, j'imagine, dans l'océan, etc., quelques mètres de profondeur. Et c'est une ressource assez importante, enfin une espèce assez importante, puisque voilà, elle recouvre aussi une grande biodiversité autour d'elle. Et du coup, c'est une espèce qui est aussi pas mal impactée par tout ce qui est changements globaux, réchauffement climatique, impact de l'homme aussi. Est-ce que tu as pu voir ça dans ton inventaire?
Bah après, oui, c'est vrai que le coralligène, en fait, la caractéristique aussi, c'est que c'est constitué d'organismes qui ont une croissance très lente, notamment les gorgones et justement ces algues en croûtante. Le corail rouge aussi, qui est protégé, et c'est beaucoup d'espèces fragiles. Et donc, c'est aussi donc hotspots de biodiversité qui amènent forcément du monde, donc des plongeurs, ça va être des bateaux à proximité. Donc, enfin, il y a eu des aménagements, notamment à la réserve marine, pour éviter d'impacter avec l'ancrage. Dans l'inventaire, on a vu donc l'impact de l'homme vraiment sur, on va dire, à travers les espèces du coup exotiques envahissantes. Et après, peut-être qu'on sera amené à en parler aussi, du coup, indirectement, le réchauffement climatique et ces espèces qui sont benthiques, sessiles, donc qui peuvent pas bouger sur le fond. Et qui vont donc subir de plein fouet les températures, qui peuvent pas migrer en fait. Donc le coralligène, c'est sa particularité aussi, c'est beaucoup d'espèces qui sont sur place, inféodées au fond, et qui vont donc être dépendants de paramètres physico-chimiques. Et du coup, si ça varie, ben, ça va forcément les impacter.
Ok. Parce que j'ai vu un documentaire récemment de Laurent Balesta, je me trompe pas,
Ouais.
justement de son expédition, j'ai plus le nom, mais à plus de 100 mètres de profondeur. Et justement, il analysait l'impact du coup, tout ce qui est réchauffement climatique, impact de l'homme sur le coralligène. Il avait vu aussi que du coup, l'impact du coup du changement de température de l'eau, ça faisait que le coralligène passait. Attends, c'est comment dire? Bah, d'une espèce, on va dire d'un plutôt zoo, enfin plutôt plante, on va dire, à animal dans le sens où zooplancton, enfin pardon, pas plancton du coup, mais zoo genre animal, c'est-à-dire qu'il va capter, il va servir de, enfin, il va pratiquer de la photosynthèse, du coup capter le carbone et rejeter du coup de l'O2. Mais avec le changement de température, ils se sont rendus compte que son rôle se modifiait et changeait à l'opposé, c'est-à-dire il se transforme en animal et produit même du méthane. Donc il émet
Ah
du
ouais?
carbone. Ouais, j'avais vu ça. Du coup, j'ai trouvé ça ultra étonnant. Mais voilà. Mais du coup, ça me permet de rebondir sur un sujet qui est assez important en ce moment, dont on parle beaucoup, surtout au parc des Calanques. C'est la mortalité des gorgones. Justement, est-ce que tu peux nous en parler un peu?
Alors, petit aparté et changement de micro pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les gorgones. Eh bien, les gorgones, ce sont des grands coraux pourpres, parfois jaunes et souvent rouges, qui se trouvent sur les fonds rocheux des fonds marins entre 7 et 110 mètres de profondeur, avec une croissance lente de moins d'un à 3 cm par an. Mais elles peuvent aussi dépasser l'âge de 50 ans et elles sont du coup caractéristiques du coralligène.
Ouais, bah du coup ça a en quelque sorte toujours existé, je vais dire, mais il y a toujours eu des épisodes de mortalité depuis les années 80 qui ont été observés. Alors elles sont pas régulières, mais alors c'est dû donc aux augmentations de température saisonnière qui peuvent être très fortes certains étés, et aussi des épisodes d'intempéries en fait, de tempêtes. Et bah cet été on en a vécu une. Donc qui a été au début observé. Souvent c'est les plongeurs, les clubs de plongée, les plongeurs réguliers qui font ces observations. Et donc après il y a tout un consortium qui s'est mis autour pour pouvoir en fait faire un état des lieux de ce qui se passait. Là on commence à prendre du recul, on commence à voir un petit peu ce qui s'est réellement passé. Et en fait c'est toutes les communautés entre 10 et 30 mètres qui ont subi. À toutes les communautés, c'est une partie des communautés qui ont subi l'immortalité. Donc après, il y a encore en fait les populations plus profondes qui elles sont sauvegardées parce que il y a la thermocline qui était encore assez basse pour les sauvegarder. Et donc notamment on compte sur ces communautés pour pouvoir régénérer les communautés supérieures. Donc qui sont encore très importantes, qui sont encore préservées. Et puis il y a des zones encore justement vers la réserve marine de Banyuls qui ont été un peu moins impactées parce que c'est des zones qui sont de manière générale un peu plus froides et qui ont des populations profondes aussi avec des canyons à proximité.
D'accord, parce que donc du coup, c'est vraiment l'impact de la mortalité des gorgones, c'est dû au changement de température de l'eau. Il n'y a pas un impact direct du coup des activités humaines, comme de l'ancrage par exemple, des gros bateaux, ce genre de choses.
Ouais, bah en fait, ouais, c'est principalement la canicule en Méditerranée qu'il y a eu.
D'accord.
Et après, en fait, après, il y a énormément de menaces sur le coralligène. C'est vrai que bah du coup, c'est les ancrages, c'est les plongeurs. Moi-même, je suis plongeur, mais les mentalités changent énormément. C'est-à-dire, on fait vachement attention, on prend en compte maintenant la bio, on fait attention à ce qu'on observe. Et donc après, un coup de palme sur une gorgone ou c'est des espèces des fois qui sont au niveau du millimètre, donc. Forcément, elles sont très fragiles. Et puis après, c'est des, faut faire attention au rejet aussi, du coup, des stations d'épuration. Voilà, principalement. Après,
C'est vrai qu'en parlant de station d'épuration, moi j'ai appris du coup en travaillant au parc national des Calanques que le rejet des eaux usées, enfin traitées, se trouvait dans
Ouais.
le parc des Calanques. Mais du coup, c'est vu qu'elles sont
Ouais.
traitées à plus de 90%, elles sont relativement propres, du coup, ce qui émet pas mal de nutriments, phosphore, nitrate, etc., ce qui attire les poissons et donc les pêcheurs. Sauf que c'est souvent dans.
Ouais.
Il me semble que c'est une zone de non-prélèvement en plus, donc ça crée pas mal de conflits d'usage. Mais du coup, ouais, c'est vrai que du coup, toi, tu dis qu'en tant que plongeur, vous faites pas mal attention à tout ce qui est biodiversité, coralligène, etc. Est-ce que tu as été aussi confronté à des plongeurs qui, bon, je pense que toi, c'est plus dans les plongeurs pro, vous faites beaucoup plus attention parce que c'est votre métier, etc. Mais est-ce que tu penses que tous les plongeurs sont sensibilisés, ils font attention à l'environnement dans lequel ils se trouvent quand ils plongent?
Ouais, de plus en plus maintenant, c'est vrai que les gens prennent conscience de ce qui les entoure. Et il y a de plus en plus justement, par exemple, les formations dans la plongée loisir. Il y a ce qu'on appelle les plongeurs biologie niveau 1 et plongeurs biologie niveau 2, qui sont, c'est des formations assez courtes et où tout le monde peut s'inscrire. Et en fait, on apprend à ce qu'on peut voir sous l'eau. Et ça, c'est très intéressant parce que souvent, on a tendance même à regarder que les poissons, donc les choses qui sont mobiles, qui sont dans la colonne d'eau. Et en fait, justement, le coralligène, c'est l'exemple concret. On se pose sur 10 mètres sur 10 mètres. On peut rester 20 minutes et voir peut-être 20 espèces différentes, voire beaucoup plus. Et ça, en fait, il faut l'apprendre, faut en prendre conscience. Et il y en a de plus en plus qui sont conscients de tout ça. Et la plongée a énormément évolué depuis maintenant quelques décennies en arrière, quoi.
D'accord. Et je sais, j'y pense comme ça, mais est-ce que tu as déjà plongé au Cap d'Agde?
Non, Cap d'Agde, j'ai déjà mis la tête sous l'eau en Palmas, tu vas, mais jamais
D'accord.
en plongée.
Parce
Tu
que
connais aussi?
je voulais savoir ce que tu pensais. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce projet de récif artificiel qu'ils ont mis en place
Ouais.
justement dans une zone de plongée qui est assez importante, mais du coup qui a été
Ouais.
dégradée à cause des plongées massives. Qu'est-ce que tu en penses de ce... En fait, ce sont des gros, ah, c'est des, on appelle ça des corps morts, mais artificiels dans le sens où c'est bien, enfin comment dire, c'est bien inspiré, c'est l'éco-conception. Ils ont comment dire, construit dans une pierre, enfin ils ont, se sont inspirés des éléments naturels. Enfin, je vais arriver à
Ouais.
formuler une phrase correcte, mais pour que les
Bio
gens nous
inspiré,
comprennent. Mais voilà, c'est
ouais.
bien inspiré dans le sens où ils ont repris un peu les formes des rochers sous-marins, etc., pour refaire un peu la même chose dans la roche qu'ils ont mis sous l'eau, donc et pour régénérer en fait la biodiversité, pour recréer d'un habitat en gros. Mais personnellement, j'ai vu la taille du machin, je trouve que c'est une emprise en sol énorme. Donc, est-ce que les
Ouais, je
récifs artificiels, c'est vraiment bien? Est-ce que ça fonctionne? Bon, après, comme on l'a vu, enfin, dans mon ancienne interview avec Sylvain Pioche, pour lui, oui, il y a un vrai gain de biodiversité, etc. Mais c'est quand même quelque chose d'artificiel qu'on met sous l'eau. Est-ce que toi, en tant que plongeur, qu'est-ce que t'en penses?
Bah, c'est toute la question qu'on se pose en ce moment. Là, j'ai passé un diplôme d'université aussi en restauration écologique. Et les récifs artificiels, ça rentre pas exactement dans la restauration écologique. Mais en fait, c'est vrai que même en fait, le principe même de... Là, on était hier à un colloque en fait au salon de l'écologie où il y a des personnes qui bossent sur le milieu sédimentaire. Et en fait, on vient poser... Le milieu sédimentaire, donc le sable où on pose souvent les récifs, c'est même en tant que tel aussi un habitat. Donc pourquoi on poserait sur le sable et on poserait pas sur les roches, etc. Enfin, ça choque personne pour l'instant, ou du moins peu de personnes, et on a encore cette image du sable où il se passe rien et on peut poser des récifs dessus.
Oui, parce
Mais
que j'ai parlé aussi
forcément.
de cet impact sur le sable avec l'OFB justement lors d'une réunion. Et c'est
Ouais.
vrai que même moi, je me suis dit, mais c'est vrai qu'il y a un impact aussi sur le sable et on n'y pense pas.
Ça.
C'est fou.
Ça. Ouais. Et mais du coup après, bon, c'est pris en compte de plus en plus. Et là, c'est vrai que il y a des choses qui arrivent. Et dans le sens où prendre en compte l'hydrodynamique, prendre en compte la biologie, l'écologie, la connectivité aussi. Qu'est-ce qui peut-être mettre plusieurs patchs de récifs artificiels pour qu'ensuite il y ait des échanges, pour que ça amène une diversité fonctionnelle et génétique. Voilà. Mais non, non, c'est sûr, comme dit bah, Sylvain Pioche, ça amène forcément une diversité. En fait, dès qu'on pose quelque chose sous l'eau, forcément, il y a des espèces qui vont se mettre dessus. Et alors là, ce qui est intéressant au Cap d'Agde, c'est que du coup, ça permet de déporter la pression de plongée aussi. Il y avait un spot justement de coralligène qui était très fréquenté par les plongeurs et les différentes activités. Et donc, en fait, ça permet de déporter un petit peu la pression. Et de soulager cette zone qui est quand même un hotspot de biodiversité dans le secteur.
Ok, d'accord. Et bon, enfin là, c'est plutôt un peu négatif, etc. Mais est-ce que toi, du coup, du fait que tu sois plongeur pro, un chercheur un peu, est-ce que tu aurais des solutions, toi, pour justement éviter l'impact sur le coralligène, que ça vienne des plongeurs directement, ou même, bon, malheureusement, la diminution de la température de l'eau, on ne peut pas trop la contrôler de notre niveau. Mais est-ce que pour toi, il y aurait des choses à faire quand même?
Ben, après, moi je dis chacun agit à son échelle. Moi justement, ce que j'aime bien à travers la photo vidéo, c'est à mon échelle montrer en fait que ce soit le côté négatif ou alors la sensibilisation à travers des images, c'est des choses qui parlent aux gens. Justement, la mortalité de Gorgone, quand on voit une Gorgone qui est en train de mourir, qui est squelettique, si je me permets de utiliser ce terme. Donc en fait, à travers l'image, après un engagement associatif aussi. Et sinon, pour vraiment agir, justement, c'est ce que j'aime bien même si ça peut amener à débat la restauration écologique, notamment du coup la transplantation du corail rouge ou encore des certaines gorgones. Donc là, c'est vraiment intervenir pour donner un coup de pouce à la nature. Mais voilà, c'est ma première idée, c'est favoriser justement les aires marines protégées. On voit que ça fonctionne. Il y a des choses qui sortent encore sur justement les connectivités. Quand on voit ce qui se passe justement à la réserve marine de Banyuls, pouvoir l'étendre, parce qu'on a vu que ça marchait très bien maintenant qu'ils ont du recul, pouvoir l'étendre, mais forcément ça amène à débat. Et après, si vraiment il y a rien qui est possible en quelque sorte et que la non-intervention ne suffit plus, il faut donner un coup de pouce. Donc avec la restauration écologique, donc ça peut être du repiquage de Posidonie, ça peut être la transplantation de corail rouge. Voilà, il y a plein de méthodes qui sortent actuellement et des méthodes biomimétiques aussi avec des récifs artificiels, pourquoi pas.
D'accord, bon, ça donne un petit espoir quand même. J'aimerais bien aussi m'arrêter du coup sur les photos vidéo que tu fais.
Ouais.
Quelle est la plus belle chose que tu aies pu prendre en photo, que tu aies pu voir ou qu'est-ce que ça te fait du coup de prendre une photo et pourquoi surtout tu le fais du coup?
Ben moi je me régale en Méditerranée déjà. C'est vrai que moi, je rêve des tropiques et de voir des choses merveilleuses juste en maillot de bain et même l'hiver. Mais en Méditerranée, il y a tellement de choses à voir. Ben, toi, tu mets la tête sous l'eau aussi, tu sais ce que c'est. Et quand justement, toi qui es à Marseille, tu as pu sûrement le voir, il y a les calanques qui sont un spot extraordinaire de biodiversité. Et donc, mais même en restant sur Montpellier, il y a les Tantos, où il y a peut-être 3 mètres de profondeur maximum, et il y a des communautés d'hippocampes. Moi, j'adore entre 0 et 3 mètres pour la photo vidéo. En fait, il y a la lumière naturelle qui rentre. On peut le faire en apnée, on peut le faire en plongée. Ça demande, enfin, c'est vraiment pas besoin forcément de bouteilles de plongée. Et là, moi, j'aime bien prendre même les hippocampes du coup, parce qu'il y a cette fragilité et en même temps cette beauté, et en même temps, enfin, s'il y a quelque chose d'émotionnel quoi quand on le prend. Et non, sinon, c'est vrai que même pouvoir observer des dauphins au large de Marseille, c'est moi, je vois la photo comme ça. En fait, c'est vrai que la photo, maintenant, c'est vachement démocratisé. On a son smartphone et limite, même, il y a des gens, maintenant, ils ont les caissons pour le smartphone et ils vont sous l'eau avec. Mais en fait, ça traduit énormément de choses. C'est vraiment un art en tant que tel. Et pouvoir traduire justement des émotions, pouvoir, et en vidéo, pareil aussi. Et on se rend compte justement, les documentaires, par exemple, qui sont faits, et que ce soit pour le grand public ou pour les experts, je pense à Arte ou même sur France 2 quand ils font des mini-reportages sur donc que ce soit justement la mortalité des gorgones ou qui montrent des images où on voit des expositions dans la rue, bah les gens vont s'arrêter si l'image est belle et ils vont voir des choses magnifiques, ils vont se dire ah c'est en Méditerranée, ils vont avoir envie de les protéger après, enfin, voilà, ça peut partir de là.
Ouais, c'est un moyen de sensibilisation. Mais ça, je le vois que c'est quelque chose de super complexe. C'est un art de prendre une photo sous l'eau parce que enfin, moi, j'y vais avec ma petite GoPro, tu sais. Je regarde les vidéos en
Ouais.
sortant de l'eau, mais c'est imbuvable, quoi. C'est pas beau du tout. Alors que enfin, les photos que tu prends, pour moi, les avoir vues déjà sur Instagram, etc., enfin, elles sont magnifiques. Et c'est vrai que ça transmet une émotion. Donc moi, je suis déjà sensibilisée, mais j'imagine que enfin, oui, ça permet de sensibiliser le grand public, c'est certain, c'est sûr. Et j'avais envie
Leur montrer la
de...
beauté.
Ouais, ah non, mais clairement, c'est ça. Mais c'est vraiment ça,
Ouais.
c'est tellement beau. Enfin, c'est... Oh là là, c'est pour ça. Mais c'est la première fois qu'on en parle de ça, parce que du coup, oui, enfin, nous, on se connaît, mais c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment parlé de toi et la photo, en fait, de ta passion pour ça. Genre, qu'est-ce que t'éprouves et tout. C'est génial, quoi. Enfin, c'est trop bien.
Sa passion et sa manière de le dire et de le montrer.
C'est vraiment ça. Donc, comme quoi, pas besoin d'aller à... 30 mètres de profondeur, tu me dis, entre 2-3 mètres, il y a déjà pas mal de choses à voir. Ok.
Ouais.
Et puis bon, du coup, pour revenir un peu sur tes missions que tu as pu effectuer. Donc toi, depuis le début...
Dès que tu es rentré dans les études supérieures, tu as su vraiment ce que tu voulais faire, c'est bosser dans la mer directement. Tu confirmes?
Ouais. Ouais, bah, c'est vrai que bah, j'ai grandi au bord de la mer, ou du moins pas loin, et toujours été à proximité. Et justement, j'en avais parlé avec Une amie aussi qui avait fait un petit texte dessus, ça m'a permis de faire une rétrospection sur moi-même. Et en fait, c'est vrai que depuis tout petit, que ce soit le surf, enfin toujours les pieds dans l'eau, chaque été et toujours maintenant en hiver, voilà. Et donc en fait, ça a développé une passion pour le monde marin. Et même en, oui, même au lycée, en SVT, comme dès que ça parlait un peu de poisson, j'étais à fond. Et donc après, ça m'a amené, ouais, à me spécialiser. Dans la biologie marine, dans le monde marin de manière générale, et en arriver jusque-là, mais c'est quelque chose de profond, c'est vrai, qui m'a toujours plu. Et mais toi aussi, tu as cette passion aussi quand même pour le monde marin à travers tes engagements.
Ouais, mais tu vois, moi, enfin, ça a toujours été une passion, mais j'ai vraiment voulu en faire mon métier plus tard. De base, je voulais bosser dans l'humanitaire. Et puis bon, c'est
Ok.
en plongeant du coup au Sri Lanka, je me suis dit, enfin, j'étais en deuxième année d'études sup en Sciences Po, et là, je me suis dit, il faut absolument que je réoriente mes études. En fait, je peux pas, enfin, l'environnement, c'est trop important. Genre, ce qu'il y a sous l'eau, c'est trop, trop important. Et du coup, bah, je crois que c'est en L3, je suis partie en Erasmus, j'ai essayé d'orienter toutes mes matières de Sciences Po par rapport à la mer, tout ça. Mais c'était, ouais, c'est toujours un peu plus politique. Et après, bah, je suis rentrée dans le super master Sciences de l'eau. Et puis après, ouais, nous, on s'est retrouvés en master 2, du coup, Sciences de l'eau, parcours eau et littoral. Mais ouais, ça a toujours été une passion, mais c'est venu plus
Ouais,
tard. Mais bon,
bah.
maintenant, du coup, j'en fais mon métier, du coup, je suis contente. Donc
Ça. Si
voilà.
on peut allier du coup le métier et la passion, c'est
C'est
rien de mieux
génial.
de pouvoir se lever le matin et d'être content de ce qu'on va faire et de travailler la journée, mais que ce soit pas un travail. Donc c'est ce que j'ai choisi et c'est vrai que c'est une chance de pouvoir faire ça, de pouvoir se donner les moyens.
On est d'accord, on est d'accord. Je souhaite ça à pas mal de gens. Donc
Ouais,
ouais,
c'est
donc toi,
ça.
t'as su dès le début ce que tu voulais faire, et même du coup, t'as été éco-garde au Parc national des Calanques, du coup. Qu'est-ce que c'est
Ouais.
éco-garde? Qu'est-ce que tu as fait?
Bah du coup, c'est vraiment, j'ai fait pendant plusieurs étés nageur sauveteur et puis cet été-là, j'ai vu une offre d'éco-garde qui passait au Parc national des Calanques. C'est vrai que même moi au début, ça m'a pas énormément parlé. C'est un terme qu'on voit pas encore beaucoup. Et le principe, c'est de que ce soit sur terre ou en mer, on ait des équipes en binôme ou en trinôme. On va en fond de calanque où on fait des animations. Pour aller sensibiliser les gens sur l'environnement marin et en fait sur le patrimoine naturel, même culturel, historique du Parc national des Calanques. Et après, ça peut même aller plus loin suivant le public. Il y en a plein qui sont intéressés et des fois, ça peut être des discussions qui vont beaucoup plus loin au fond d'une calanque. Et après, c'est des ateliers du coup avec le Parc national des Calanques, comme tu peux le voir, ils font beaucoup d'animations. Ce que j'adore là-bas, c'est que il y a beaucoup de, que ce soit des animations, des stands, des ramassages de déchets, beaucoup
Ouais, le pôle
d'initiatives.
sensibilisation est très très important au Parc
Ouais.
national des Calanques, c'est ouais.
Non, ouais, non, du coup, ben, ouais, on allait, donc là, moi, avec le permis bateau, j'ai pu aller, en binôme, du coup, sur l'eau aussi, pour aller, sensibiliser les gens, par exemple, sur les arbres de Posidonie, pour, leur parler de l'ancrage, et puis même, quand il y a des petits, pouvoir parler de la pêche, de ce qui est autorisé, leur montrer les poissons. Et justement là c'est des belles images d'illustration pour leur dire bah là le poisson que vous voyez sous le bateau c'est une oblade et on leur montre une photo et puis sur terre qu'il peut y avoir des oiseaux qui sont protégés voilà donc et puis après beaucoup de prévention aussi sur les risques incendies pour éviter des catastrophes et sur plein de comportements et d'incivilité des fois qu'on voit que ce soit au niveau sonore des piétinements des clopes qui sont jetées voilà donc c'est un travail on se sent en fait pendant 2 mois, utile, vraiment. Et on rentre le soir, on fait un bilan, on échange, et puis vraiment, on est les personnes qui sommes au cœur de l'espace dans le parc des Calanques. Et après, on retranscrit tout ce qu'on a vu, tout ce qui se passe en fait. Donc c'est vraiment un job qui est passionnant et où on se sent utile à 200%.
Et ça, c'est génial parce que du coup, c'est un boulot saisonnier. Donc, pour les jeunes étudiants, etc., enfin, c'est le top parce qu'en plus, tu t'arrêtes pas d'apprendre et tu, ouais, t'es vraiment utile, quoi. Enfin, c'est vraiment génial ce que vous faites. Puis là, du coup, enfin, moi qui y suis, enfin, moi, je suis en tant que salarié, plutôt, sur du long terme. Mais pour avoir des éco-gardes, enfin, c'est à eux que je vais poser les questions parce que c'est les personnes qui connaissent à fond le terrain. Enfin, c'est vraiment génial, je trouve. Enfin, c'est trop bien. C'est un taf que je recommande pour les,
Ouais, c'est une super expérience de pouvoir faire ça. Et puis souvent en plus ils prennent des étudiants, donc c'est vrai que on est, enfin des étudiants ou des gens qui sont dans ce domaine-là. Et donc on est tous passionnés et c'est une très bonne ambiance et on peut vraiment tous pouvoir y accéder si on est un petit peu dans ce domaine-là.
J'allais dire que du coup en tant qu'éco-garde, t'avais genre c'était ouais l'émission d'éco-garde, t'avais pas une mission spécifique du coup.
Ouais, c'est ce que j'ai adoré aussi, c'est vraiment la diversité des missions. Mais c'est ce qui est passionnant dans ce boulot aussi à la réserve marine, c'est ce qui se passe. Il y a un jour, on pouvait être sur un événement de sensibilisation, sur un forum. Le lendemain, on peut être sur le bateau pour aller voir les gens. Le lendemain, on est dans la camionnette qui fait de la sensibilisation aux entrées des calanques. Encore le surlendemain, on va être après aux entrées pour interdire l'accès pour risque d'incendie fort. Tous les jours, ça va être quelque chose de différent, des calanques différentes, des personnes différentes. Et c'est ça, en fait, on s'ennuie jamais. Même si le soir on arrive fatigué et que c'est des grosses journées, enfin après il y a des personnes qui aiment bien avoir une régularité et une certaine routine, mais moi ce que j'adore aussi dans ce genre de métier, c'est que ça change régulièrement et que on s'ennuie jamais.
Ok, trop bien. Et écoute, on arrive pas loin de la fin de cet petit épisode, de cette petite interview. Donc, je t'ai demandé il y a quelques jours de trouver une citation qui t'inspire en rapport avec la mer. Est-ce que tu l'as?
Ah non, j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas. Non, si. Du coup, c'est vrai que j'en avais une que j'ai dans mon bloc-notes en fait depuis longtemps et qui m'inspire énormément, que ce soit dans la vie de tous les jours, mais aussi pour l'environnement et l'environnement marin. C'est un neurobiologiste, Alain Berthez, qui disait la mer du passé n'est pas faite pour se souvenir du passé, elle est faite pour prévenir le futur. Et après, il rajoute, la mémoire est un instrument de prédiction. Et ça, en fait, c'est très vrai, notamment avec ce qui se passe en ce moment pour le changement climatique et de manière générale même dans la vie de tous les jours. Et pouvoir apprendre en fait de ce qu'il y a eu dans le passé pour améliorer le futur. Et en fait, c'est pas juste se lamenter sur le sort, c'est se souvenir du passé pour ensuite améliorer le futur, quoi.
Ok, trop inspirant, trop bien. Et ensuite, est-ce que tu aurais un bouquin ou une thèse ou un article à nous partager?
Oui, bah, j'ai vu récemment donc un scientifique justement qui avait partagé ils appellent ça un booklet, donc bon, je sais pas, toi qui es plus bilingue que moi, c'est tu auras la meilleure traduction. Ça s'appelle Méditerranée en ébullition et en fait ça parle vraiment, ça fait un peu un état zéro de ce qui se passe en Méditerranée et avec des très belles illustrations. Et c'était vraiment d'actualité justement avec tout ce qui s'est passé, ça rejoint ce qu'on a dit avant. Et en fait, ça montre donc justement les mortalités de Gorgone. Et à chaque fois, il y a des références. C'est des choses qui sont avérées donc dans des articles scientifiques. Et c'est un mélange entre de la vulgarisation et en même temps justement des faits avérés d'articles scientifiques et des chiffres clés. Donc voilà, des catastrophes météorologiques extrêmes, des invasions tropicales, des événements de mortalité massive. Et tout ça avec des illustrations qui sont vraiment plaisantes, même pour du coup du grand public et même pour des experts. Moi, j'ai utilisé notamment cette plaquette qui a été partagée par un scientifique catalan très très renommé pour ensuite aller chercher la source et appuyer mon sujet de stage. Donc voilà, je conseille. Ça s'appelle Méditerranée en ébullition et donc c'est en anglais, on le trouve plus facilement. Boiling Mediterranean Booklet.
Bien, bel
Et
accent.
donc en plus, merci, thank you. Et en plus, il y a six versions dans 6 langues différentes qui est accessible donc à tout le monde pour tout le monde.
Ok. Eh bien, merci beaucoup Rémi d'avoir participé à cet épisode. En tout cas, c'était super intéressant. Ça fait plaisir, même à titre personnel, parce que voilà, comme je te l'ai dit, on est tous les deux amis en dehors de cet épisode. En dehors des études, etc. Et c'est vrai qu'on n'en parle jamais de tout ça. Et pourtant, c'est le cœur même de notre passion et de nos études. Donc, c'était grave chouette.
Bah, merci à toi, et c'est vrai que c'est bien de prendre le temps de parler de tout ça, et on a tant de choses à se dire. Et ce qui est très important aussi justement dans ces échanges, c'est de pouvoir améliorer, de pouvoir échanger, et tout est complémentaire, donc que ce soit dans ce que tu fais, et dans ce que je fais, et même d'autres domaines, que ce soit social et tout, on l'a vu énormément dans le master. Pouvoir échanger, c'est vachement important, et donc merci à toi pour ce moment d'échange et ces podcasts qui sont très enrichissants pour tout le monde.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. En tout cas, j'espère qu'il t'a plu. Si tu souhaites avoir plus d'informations sur Rémi, sur ses photos, sur son article qu'il a partagé, sur sa citation, je te laisse regarder en description de cet épisode, tout y est. Et si tu souhaites en savoir plus sur Parlons Peu, Parlons Bleu, je te laisse aussi le lien de mon blog sur Instagram. Tu peux aussi aller jeter un coup d'œil. Sur ce, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao !